Ici Psycho-Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Nous sommes en plein cœur du mois de juillet, vendredi le 14 juillet 2023. Alors donc, j'entame le chapitre 1 de mon livre L'infidélité n'est pas banale. Je vais faire la lecture de ce premier chapitre, c'est-à-dire je vais commencer ce premier chapitre avec le temps que nous aurons pour aujourd'hui, comme toujours autour de 25 minutes. Alors donc, le titre de ce premier chapitre est Tout le monde le fait, point d'interrogation. Et le sous-titre que j'entame à l'instant est celui-ci, La permission extra-conjugale. Certains couples choisissent d'un commun accord la liberté sexuelle. Qu'on se rappelle la popularité du best-seller intitulé Le mariage open de O'Neill et O'Neill en 1972, qui préconisait justement la liberté sexuelle concertée entre les deux membres d'un couple. Ce livre fut acclamé par des milliers d'Occidentaux qui sortaient d'une ère de puritanisme sexuel et qui faisait sa révolution sexuelle. C'est à cette époque, à partir des années 1960, que de nombreux comportements sexuels autrefois durement réprouvés devenaient soudainement permis et même souhaitables. Tout à coup, par exemple, la masturbation perdait non seulement son statut de grave perversion, mais elle devenait presque obligatoire pour la santé mentale. L'homosexualité était retirée du DSM, le manuel diagnostique de l'Association des psychiatres américains, et n'était donc plus considérée comme étant une maladie mentale. Les relations prémaritales, autrefois considérées comme des péchés mortels, devenaient normales et légitimes, et on remettait subitement la notion de fidélité conjugale en question. C'est dans ce contexte que le mouvement d'échange de partenaires sexuels entre couples, qu'on appelait en anglais swinging, s'est répandu en Amérique du Nord. Certains auteurs, notamment Brecher en 1969, en vantaient les mérites pour l'estime de soi et même pour l'enrichissement de la sexualité conjugale. Par exemple, des femmes mariées, adeptes de l'échangisme, s'exprimaient ainsi, deux points. Les relations extra-conjugales m'ont rendu moins timide. Une autre, j'ai l'impression que les gens m'aiment plus et plus facilement. Ou encore, je me sens plus sûr de moi. Ou encore, je suis plus agréable, moins passive et moins réticente. Une autre disait, je suis maintenant libre et infiniment plus tolérante. À cette époque, même la littérature spécialisée en santé mentale pouvait mépriser les professionnels qui conservaient des attitudes plus traditionnelles sur le mariage et préconisaient la fidélité. N'empêche que des recherches postérieures ont montré que les couples s'adonnant à l'échangisme en venaient à se séparer plus tôt que les autres. Même si certains voyaient que le swinging des années 70 allait se généraliser, inévitablement, il est resté un phénomène marginal aux États-Unis. Et en France, excusez-moi, aux États-Unis et en France. Au Canada, la Cour suprême légalisait la tenue de clubs d'échangisme de partenaires sur la base d'une plus grande tolérance de la société face au comportement sexuel d'adultes consentants. Mais le pourcentage de couples s'adonnant réellement à ce genre d'activité, au-delà de quelques expériences uniques, m'apparaît tout à fait minime. Aujourd'hui, on lit à l'occasion des sexologues comme Nichols, qui traite la non-monogamie d'un couple comme si cela pouvait fonctionner sans trop de problèmes. Est-ce possible? Peut-être pour une minorité de personnes particulièrement bien équilibrées. Mais paradoxalement, les personnes qui pourraient le plus se permettre d'occasionnelles infidélités sans conséquences négatives sont précisément celles qui n'ont pas envie de le faire parce qu'elles sont bien dans leur vie de couple et qu'elles ne veulent pas compromettre leur bonheur. Comme un ami me disait, si on pouvait le faire juste une fois par année, trois petits points, la vie serait-elle plus pétillante si on se permettait une certaine élasticité côté fidélité? Sans aucun doute, serions-nous plus heureux? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Où s'arrêterait cette élasticité souhaitée? La solution n'est pas évidente. Certains esprits libéraux voient la fidélité comme une prison et valorisent ceux qui défient cette norme sociale. Pourtant, on sait que même les couples qui s'accordent mutuellement la liberté extra-conjugale ont tendance à se séparer plus que les autres et que, de toute façon, leur liberté sexuelle ne peut être supportée indéfiniment. Au mieux, ces gens-là en viennent à traverser une crise qui les amène à adopter la fidélité pour sauver leur union. Par exemple, les célèbres auteurs du best-seller Open Marriage, dont je parlais tantôt, qui préconisaient cette liberté extra-conjugale, se sont séparés peu après la publication de leur livre. En fait, ces propos peuvent sembler moralisateurs pour quiconque a envie de se laisser aller un peu, mais si l'on tient à son mariage, on a grand avantage à s'astreindre à la fidélité. Je devrais le dire autrement. Toute personne qui aime vraiment son conjoint veut partager toute sa vie avec lui. C'est-à-dire, je reprends ma phrase. Toute personne qui aime vraiment son conjoint et qui veut partager toute sa vie avec lui a plus de chances de réaliser son objectif en restant fidèle. Le psychiatre américain Pittman estime à plus de 50% la probabilité de divorcer chez les couples qui ont connu l'infidélité. Ce serait même l'adultère, à part l'infertilité, qui serait la cause la plus fréquente de dissolution conjugale dans toutes les cultures du globe. Une recherche américaine récemment publiée sur les causes du divorce aboutissait au même résultat. C'est l'infidélité qui arrivait en tête de liste comme cause de leur divorce dans la perception des gens interrogés. Excusez-moi. Cependant, il faut nuancer ce genre de résultat. L'infidélité était-elle réellement la cause de la séparation du couple ou simplement la conséquence de leur mésentente? Quoi qu'il en soit, la vraie question concernant le bien fondé de la fidélité n'est pas de savoir si, objectivement, elle relève de la morale, de la religion, de nos gènes ou de notre culture. La vraie question est celle-ci, deux points. Quelles seraient les conséquences de mon infidélité sur le bien-être de ma conjointe ou de mon compagnon de vie, sur mes enfants et sur moi-même? Les arguments pro-infidélité basés sur l'hérédité, le comportement anthropologique de nos ancêtres ou les habitudes d'autres cultures me paraissent des rationalisations naïves. C'est comme si l'infidélité se vivait de façon schizoïde en réaction à une entité abstraite qui serait la société trop exigeante. On oublie alors qu'en réalité, la personne infidèle est en train de faire quelque chose qui a un impact sur son ou sa conjointe, une personne en chair et en os, et non sur une chimère éthérée. Nouveau sous-chapitre qui s'intitule « L'universelle jalousie et autres puissantes contraintes ». En Occident, on s'imagine naïvement que dans les sociétés où la polygamie et la liberté sexuelle sont permises, c'est presque le bonheur paradisiaque. On a souvent cité la réputée anthropologue Margaret Mead pour prouver comment la culture d'une société détermine les comportements sexuels. Margaret Mead, c'est bien connu, avait observé la culture des Samoans, un peuple vivant sur une île du Pacifique. Ce peuple, selon Margaret Mead, vivait dans la parfaite harmonie, sans jalousie ni possessivité, tout en jouissant de relations extra-conjugales permises et acceptées d'emblée dans sa culture. Or, ce qui est moins connu, c'est que les prétentions de Margaret Mead n'étaient pas fondées. Les recherches subséquentes sur cette culture ont démontré que les Samoans n'étaient pas foncièrement différents des Occidentaux. En effet, les relations extra-conjugales, même permises, amenaient les Samoans à vivre aussi de la culpabilité, de la honte, de la jalousie et le reste des problèmes inhérents à la liberté sexuelle. Après avoir parcouru toute la littérature scientifique qu'il a pu trouver sur ce sujet de l'infidélité, le sexologue et sociologue canadien Ira Rice conclut même que la jalousie sexuelle existe dans toutes les cultures humaines connues. La jalousie est donc universelle. Dans toutes les sociétés du globe, la plupart des gens s'opposent à ce que leur partenaire conjugal fasse l'amour avec d'autres. Abordant la polygamie, l'anthropologue Helen Fisher nous révèle justement que dans les familles polygames, on observe de la jalousie, des batailles continuelles pour obtenir de l'attention. D'ailleurs, vous serez probablement surpris d'apprendre que dans la vaste majorité des sociétés permettant la polygamie, seulement 5 à 10% des hommes sont réellement, c'est-à-dire ont réellement plusieurs femmes à la fois. Plus encore, l'anthropologue George Peter Murdoch a passé en revue 250 cultures pour réaliser que dans les faits, presque toutes les sociétés humaines étaient monogames, considérant le nombre de personnes qui vivent avec un seul conjoint, en dépit de la prépondérance des sociétés officiellement polygames sur la Terre. La vérité, c'est que dans le monde entier, les hommes ont tendance à épouser une seule femme à la fois. Ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, le mariage est un phénomène universel. Il prédomine dans chacune des sociétés de la Terre. Le lien conjugal est intimement lié à l'identité personnelle, à la valeur de soi, au sentiment d'appartenance et à la peur d'être abandonné. Le désir amoureux et le lien qu'il crée soulèvent nécessairement la compétition et la peur d'être rejeté. En présence de liens sexuels et amoureux multiples, on joue donc avec de la dynamite émotive. Pourquoi la majorité des personnes restreignent-elles leur pulsion sexuelle extra-conjugale alors que d'autres se laissent aller? Et qui choisit de se laisser aller pendant que la majorité se contraint? Selon moi, on ne trouvera pas la réponse chez les anthropologues comme Helen Fisher, qui explique l'infidélité par la simple propension de l'animal humain à chercher la diversité sexuelle pour se reproduire. Les motivations psychologiques individuelles sont ainsi trop vite écartées. Il m'apparaît superflu d'insister sur le fait que nos ancêtres étaient tous était tout à fait libre sexuellement avant de commencer à former des couples, voilà environ 4 millions d'années. Si l'on veut se déculpabiliser, on peut simplement penser que l'infidélité existe partout sur Terre, depuis toujours, et même aussi chez les animaux monogames. Par exemple, des scientifiques ont vasectomisé des oiseaux mâles vivant en couple pour découvrir que leurs épouses, entre guillemets, donnaient quand même naissance à des oisillons. D'autres ornithologues ont fait des prélèvements sanguins d'oisillons de même portée pour constater que dans presque 50% des nids d'oiseaux monogames, au moins un oisillon n'était pas du même père. Avant de condamner sévèrement ceux qui s'éloignent de nos normes de conduite sexuelle, il est quand même bon de rappeler la complexité de la vie. Gary et Bede Crayen révèlent que des statistiques étonnantes. Du côté animal, des chercheurs ont estimé à 15% le pourcentage d'oisillons nés de pères extra-conjugaux dans les espèces d'oiseaux monogames. Or, ces chercheurs ont réalisé que les femelles obtiennent aussi des gènes de qualité supérieure, ce qui signifie des taux de natalité plus bas pour leur progéniture. De tels enjeux biologiques joueraient aussi chez les humains de façon totalement inconsciente, bien entendu. Plusieurs recherches ont abouti au pourcentage étonnant d'environ 10% du nombre d'enfants dans le monde élevés par des pères trompés qui ne sont pas leur père biologique et qui l'ignorent totalement. Quand même incroyable, 10%. Ce pourcentage varierait cependant en fonction des cultures et du statut économique. On a trouvé 1% de non-paternité en Suisse et des taux supérieurs à 20% ailleurs dans des couches socio-économiques inférieures. De plus, encore plus étonnant, il y aurait un lien entre le moment de l'ovulation et le moment où les femmes succombent à l'infidélité. C'est comme si les femmes défavorisées cherchaient inconsciemment à améliorer le bagage héréditaire de leurs enfants. De toute façon, chez les humains, le risque de paternité étrangère au couple est l'une des raisons majeures de condamnation de l'infidélité dans la plupart des sociétés. Il ne faut certes pas négliger cette conséquence palpable des relations extraconjugales. Mais, de nos jours, la contraception et l'avortement libre ont changé passablement cette donnée. Toutefois, une conséquence négative d'envergure suscitée par la diversité de partenaires sexuels n'a pu être maîtrisée. Il s'agit des maladies transmises sexuellement qui constituent une des raisons majeures de restrictions sexuelles depuis longtemps. L'histoire de l'Occident nous révèle l'existence de cycles de 150 ans au cours desquels des périodes de libertinage ont été suivies systématiquement de périodes de puritanisme, cela en relation directe avec le niveau de maladies transmises sexuellement retrouvées dans la population. Dans une ère de restrictions sexuelles, habituellement soutenues par des valeurs morales et religieuses, les maladies transmises sexuellement sont relativement rares. C'est à ce moment que les gens se permettent une plus grande liberté extra-conjugale sans la crainte d'être infectés. C'est la période où surgissent des révolutions sexuelles amenant les individus à adopter des attitudes plus permissives face à la sexualité. Le mouvement du balancier se fait sentir quand la liberté sexuelle ramène les maladies transmises sexuellement dans les réseaux des différents partenaires sexuels. Le risque de contamination devenant de plus en plus sérieux, une nouvelle vague de puritanisme surgit. À partir des années 1960, le cycle a justement changé. Le puritanisme antérieur étant repoussé par l'apparition de la pilule anticonceptionnelle. Cette nouvelle révolution sexuelle a non seulement contribué à l'accroissement du taux de divorce, mais aussi à la résurgence des maladies transmises sexuellement. L'herpès et la gonorrhée avaient déjà des conséquences assez dévastatrices sur le plan affectif, sans qu'on ait besoin d'y ajouter des maladies pires encore comme le cancer du col de l'utérus, l'hépatite B, l'hépatite C et le sida, qui ont des taux de morbidité et de mortalité substantielle. Sans oublier l'infertilité occasionnée par des maladies transmises sexuelles qui connaît des taux alarmants dans certains pays. Il faut le savoir. Les maladies transmises sexuelles sont un réel fléau, encore sous-estimé malgré leurs ravages partout sur la planète. Or, plus on a de partenaires sexuels, plus on est à risque. C'est bien connu. Nouveau sous-chapitre intitulé « L'infidélité est moins fréquente qu'on ne le pense ». Combien de personnes osent défier les diverses contraintes restreignant la liberté sexuelle? Selon des recherches et certaines opinions cliniques, presque tout le monde serait infidèle. Selon d'autres sources, c'est l'inverse. En France, Desjeuns, en 1996, estime la proportion de gens vivant en couple, mariés ou non, qui ont été infidèles au cours des 5 dernières années entre 10 et 20 % De leur côté, Wattier et Picard, en 2002, supportent que 68% des Français affirment n'avoir jamais eu envie de tromper leur conjoint. 84% ne l'auraient jamais fait, contre 13% seulement qui avouent être allés voir ailleurs. Pourtant, un peu plus loin, les mêmes auteurs écrivent que 6 femmes sur 10 et 7 hommes sur 10 auront au moins une aventure extra-conjugale au cours de leur vie. Aux États-Unis, certaines recherches sont continuellement citées sur la question de l'infidélité et les pourcentages d'infidélité varient d'un auteur à l'autre. L'incontournable... L'incontournable pionnier de la recherche en sexologie, Alfred Kinsey, est toujours cité avec son pourcentage de 50% d'infidélité chez les hommes et 25% d'infidélité chez les femmes de moins de 40 ans. Plus tard, en 1970, Attanasio aboutissait au taux de 40% d'infidélité chez les hommes et 36% chez les femmes. En 1974, Hahn parlait de 47% des hommes mariés de moins de 40 ans, tandis que Tavris et Saad, en 1975, donnaient le chiffre de 39% des femmes mariées de 40 ans et plus. Wolf, en 1980, faisait un bond en parlant de 69% des femmes mariées de plus de, 35 ans. Mais c'est que même si ces statistiques et d'autres du même genre sont continuellement présentées dans les textes de sexologie américaine, elles ne sont pas pour autant fiables à cause de lacunes méthodologiques. Entre autres, on ne fait pas la distinction entre un léger contact sexuel extra-conjugal vécu une seule fois dans sa vie et une liaison de plusieurs années. En faisant ce genre de distinction, Lusterman, en 1998, arrive à la proportion de 10 à 12% des gens mariés qui ont eu une relation extra-conjugale d'un mois et plus. La recherche probablement la plus fiable sur cette question est celle de l'organisme américain National Opinion Resource Center, qui révélait en 1994 que dans son échantillonnage, 21% des hommes et 11% des femmes avaient été infidèles au moins une fois dans leur vie. Questionnés sur leur infidélité au cours de la dernière année, 3,6% des hommes et 1,3% des femmes avaient avoué avoir été infidèles au cours de cette période de 12 mois. Alors, je vais m'arrêter ici pour cet épisode et je continuerai dans à peu près 2 semaines à vous lire comme ça mon livre intitulé L'infidélité n'est pas banale. Alors, donc, c'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. N'hésitez pas à consulter mon site internet pour avoir plus d'informations sur qui je suis. Et donc, on se laisse comme ça pour cette fois et au plaisir de se retrouver.